Vérifier l'incandescence. Édouard relut la lettre d'Élise avant de la glisser dans la poche de sa veste. Il en profita pour saisir l'adresse dans le GPS de son téléphone. Il avait évoqué son escapade du jour au petit déjeuner. Gaël connaissait peu Val-André. Suzanne y était passée avec son deuxième mari durant des vacances sur la côte d'Emeraude. Elle demanda pourquoi là-bas. Édouard noya le poisson en lui répondant qu'il y retrouverait un ami d'enfance. Il n'avait parlé d'Élise à personne. Il s'était déjà bien assez dévoilé concernant son épouse puisque la vieille femme avait été témoin de la scène. Il n'allait pas y ajouter un amour de jeunesse qui ressurgit comme une rivière souterraine plus de 30 ans enfouie. Il avait besoin de la revoir en secret. Aux yeux des autres, quitter sa femme pour une autre femme n'est pas du même acabit que la quitter pour prendre du recul. Parce que tu as quitté ta femme ? Gaël s'était adossé au chambranle de la porte, étonné d'entendre ronronner sans fin la voiture dans la cour. Elle observait Édouard, assis derrière le volant. Il venait d'essayer la casquette de Gauvin qui traînait sur le tableau de bord en vérifiant son allure dans le miroir du pare-soleil, puis l'avait reposée avant d'empoigner fermement le volant. Il regardait droit devant lui, immobile et calme. À quoi pensait-il? Bien qu'elle sente un trouble évident depuis son arrivée, elle se gardait bien de lui en demander la cause, de peur de devoir se dévoiler elle-même en retour. Il finit par passer la première et commença à rouler. Elle le vit jeter un œil machinal dans le rétroviseur en quittant la cour. Les feux stop s'allumèrent un instant, puis il accéléra. Édouard roulait sans cesser de penser à Élise. Elle ignorait sa venue. Elle avait entrouvert une porte. Avant de lui répondre, avant de prendre le risque de replonger tout entier dans un engrenage dont il ne connaissait ni le mécanisme, ni surtout l'aboutissement, il avait besoin d'éprouver ce qu'il ressentait face à elle. Il n'avait gardé que son image d'adolescente. Certes, d'une intensité sans commune mesure, mais qui s'était évanouie avec le temps. Une silhouette égarée dans un brouillard tenace, celui des souvenirs définitifs qu'on ne conjugue qu'à l'imparfait. La lettre qui voyageait dans sa poche donnait à leur rencontre la forme d'un verbe infinitif. Qu'attendait-elle? Et lui? Qu'espérait-il? N'était-il pas en train de se nourrir d'illusions perdues qu'il achèverait d'un coup de massue décisif derrière la nuque? Elle tenait peut-être seulement sa promesse, l'informer de ce rêve abouti. Arrête de réfléchir, bon sang. Va, vois et agis. Il ralentit dans les derniers virages et vit s'allonger devant lui la grande avenue parallèle à la promenade en bord de mer. Il avait étudié le plan. Sa rue était une de ces nombreuses travées perpendiculaires qui partaient de la route où il roulait et débouchaient sur le front de mer. En théorie, sa boutique faisait presque le coin avec la promenade. Édouard avait entrepris de se garer quelques ruelles en amont. La discrétion était nécessaire à son entreprise. Il ne voulait rien précipiter, surtout pas lui-même. Après 33 ans, il fallait prendre le temps. Il réalisa alors ce qu'il s'apprêtait à vivre et ses mains se mirent à trembler sur le volant. Il prit la première rue à gauche et se gara comme il put. Il avait détaché sa ceinture. Le reste de son corps ne bougeait pas, coincé dans cet habitacle envahi par deux souvenirs épais, le premier et le dernier d'Élise, qu'il avait lu et relu quelques jours plus tôt dans son journal inachevé. Ce journal, commencé le jour où il avait croisé son regard pour la première fois et laissé en suspens après son départ. 3 janvier 1985. Nous sommes en première. Les vacances de Noël viennent de s'achever et la rentrée commence avec un cours de maths. Je suis à côté de Denis, dans la troisième rangée, celle le long des fenêtres, à l'avant-dernier rang. Nous sortons nos affaires de notre sac US. Les derniers élèves entrent en se précipitant avant que le prof ne referme la porte. Je le vois se raviser, l'ouvrir un peu plus grand pour accueillir la CPE. Elle vient nous présenter la nouvelle élève qui intègre notre classe. Monsieur Castano lui enjoint de s'asseoir au 5e rang de la première rangée contre le mur. Elle porte une robe rouge avec de petites fleurs noires et de la dentelle, sur des collants en laine, et des kickers aux pieds. Sa fantaisie vestimentaire attire mon regard et mon intérêt. J'aime l'idée qu'elle ne cherche pas à se fondre dans la masse. Son originalité est si lumineuse en regard des autres filles si ternes. Elle a posé sa veste militaire kaki doublée de fausses fourrures sur le dossier de sa chaise et s'est assise pour déballer ses affaires. Quelques instants plus tard, elle enlève son écharpe et se retourne pour venir la déposer dans la capuche de sa parka. C'est là que tu me regardes. Je ne t'avais pas quitté des yeux depuis que tu avais franchi la porte. Je te fais un sourire discret. Le tien est magnifique. Les deux fossettes qui l'accompagnent me clouent sur place. Le violent coup de coude de Dédé dans mes côtes me ramène à la réalité des équations du deuxième degré inscrites au tableau. Reviens sur terre, Ed. Tu badineras à la pause. Si Castano te voit la regarder, il ne te loupera pas pour t'humilier devant tout le monde. Il a compris. Édouard Fourcade, la nouvelle vous intéresse plus que mes équations ? Quelques élèves ricanent. Je me sens humilié. Humilié, mais amoureux. Il peut se les garder, ces équations. J'en ai une autre à résoudre dont l'inconnu s'appelle Élise. C'est l'instant où j'ai recommencé à compter les couleurs. 7 juillet 1986. Je ne l'ai pas vu depuis une semaine. Je n'arrive plus à lui téléphoner. Sa mère fait barrage. À croire qu'ils l'ont enfermé dans sa chambre depuis la fin des examens. Nous sommes tous agglutinés devant la cour du lycée, anxieux d'attendre que le proviseur ouvre le portail sur nos résultats au bac. Denis et moi charrions Diane. Elle est sûre de ne pas l'avoir, alors qu'elle a dû obtenir une mention bien, le syndrome de la bonne élève qui doute. Je sens alors une main nerveuse m'agripper le bras. Quand je me retourne, elle est là. Je me penche pour l'embrasser, mais elle m'emmène à l'écart, sous les pins qui bordent le lycée. Mon père m'attend dans la voiture de l'autre côté de la rue. Il ne veut plus qu'on se voie. Il est dans une rage folle. J'ai rendez-vous la semaine prochaine à Sainte-Anne. Ils n'ont rien voulu savoir. C'est mieux que tu m'oublies. Sa barrière de cils est inondée de larmes et la voix tremble. Ses yeux disent le contraire de sa bouche. Et je ne sais pas qui croire. Élise, t'as bientôt 18 ans, non? Ils ne peuvent pas t'empêcher de vivre ta vie. Ce sont mes parents. Tout est écrit là, dit-elle en me tendant une enveloppe en papier craft. Et moi, Édouard, on va déménager. Il a demandé sa mutation. On part en Afrique. Quand? Dans 2 semaines. J'ai le souffle coupé. Je n'ai même pas pu la prendre dans mes bras. Elle a filé. Sa petite robe bleue suit sa silhouette comme elle peut, brinque-ballée dans le fracas de cette annonce et de sa fuite. Élise court sans se retourner jusqu'à la voiture. Son père regarde droit devant lui, un sourire satisfait sur ses lèvres serrées. Avant de monter dans la voiture, Élise se tourne vers moi et je lis sur ses lèvres « Je t'aime pour toujours ». Denis s'approche de moi. Je ne sais pas depuis combien de temps je regarde l'emplacement resté vide après leur départ. « T'as gagné le droit de fêter ton bac, Ed. » J'ai perdu Élise. En ouvrant les yeux, Édouard vit au loin l'horizon flou et incertain de la mer qui flirtait avec le ciel. L'eau salée avait pourtant atteint ses paupières. Il ouvrit la portière tout en essuyant d'un revers de manche ce souvenir qui coulait sur sa joue. La scène semblait si lointaine et si proche à la fois. 33 ans et une lettre. Il posa la main sur sa poitrine, en face de la poche intérieure pour aller puiser du courage dans le papier tant de fois plié et déplié, et il se redressa en verrouillant la voiture.